Tout ça, c'est des histoires. Sophie Pérez sur Radio Grand Ciel. Bonjour. Ça s'est passé il y a très longtemps de ça, dans une grande forêt. Dans cette grande forêt, on racontait qu'il y avait un homme qui vivait là. Un homme bizarre qui galopait toujours avec son grand cheval noir et ses trois chiens noirs, grands comme des taureaux. Personne n'avait envie de se promener dans cette forêt-là la nuit. Seulement un jour, il y a une jeune fille qui s'est perdue. Et elle a vu la nuit qui tombait. Et elle a entendu tout autour d'elle arriver des bruits de pas, des aboiements. Et elle a vu arriver dans la clairière où elle s'était arrêtée trois gros chiens, gros comme des taureaux. Et juste derrière eux, un cheval avec un homme. Et cet homme avait une grande barbe bleue. Elle s'est retrouvée au milieu de la clairière avec les chiens autour d'elle et l'homme s'est approché. Il l'a attrapé, il l'a posé sur son cheval et ils sont tous repartis au grand galop. Et ils ont galopé, galopé, galopé. Ils ont traversé la forêt jusqu'à arriver dans un grand château. Ils sont entrés dans la cour et Barbe Bleue a déposé la jeune fille et il l'a emmenée dans une chambre. Tout en haut de la tour, tout en haut du château. Il est reparti sans rien dire. Elle est restée là quelques jours. Elle est devenue sa femme. Et les serviteurs lui apportaient à manger, lui apportaient des vêtements, s'occupaient d'elle, mais personne ne voulait vraiment lui parler. Barbe Bleue, lui, il passait de temps en temps, mais il repartait souvent chassé avec ses chiens. Elle était souvent seule. Il n'y avait qu'une servante, une bergère qui passait souvent en bas de ses fenêtres, qui venait de temps en temps la voir, qui parlait avec elle. Mais la jeune fille, elle, la femme de Barbe Bleue, elle restait dans sa chambre, à guetter, voir si des gens pouvaient venir la chercher. Personne. Juste la forêt. Un jour, Barbe Bleue est entrée dans sa chambre et il a posé sur la table un trousseau de clés. Il lui a dit « Femme, je pars pendant quelques jours, tu es la maîtresse ici, tu as toutes les clés du château. » Il y a juste cette clé là qui ouvre la porte au fond du couloir. Tu n'as pas le droit de l'ouvrir. Toutes les autres, tu peux y aller, tu es la maîtresse. Mais celle-là, je l'interdis. » Barbe Bleue a fermé la porte, il est monté sur son cheval, il a amené ses chiens avec lui et ils ont quitté le château, ils sont partis dans la forêt, ils sont partis quelques jours. Pendant quelques jours, la femme de Barbe Bleue, elle s'est occupée de ses affaires, elle a regardé le trousseau de clés, elle n'y a même pas touché. La première semaine, ça s'est bien passé. Puis la deuxième semaine, Barbe Bleue n'était toujours pas de retour, elle voyait ce trousseau. Et puis un jour, elle a dit « Je suis la maîtresse ». Elle a pris une clé, elle a essayé d'ouvrir une porte qui était juste en face de sa chambre. Elle a tourné la clé, elle a ouvert la porte. Et là, elle s'est retrouvée dans une grande pièce remplie de vêtements, de robes, les plus belles, les plus richement brodées, les magnifiques, des robes en velours. Elle en a essayé une, deux, elle lui allait toutes. Mais oh, c'était une merveille, il y avait un grand miroir, elle se regardait. Elle en a choisi une, belle, verte, magnifique. Elle a pris une deuxième clé, elle a été dans le couloir, ouvrir la porte qui était juste à côté. Et quand elle a ouvert la porte, dans toute la pièce, des coffres remplis de bijoux, de colliers, de boucles d'oreilles, et un grand miroir pour se regarder avec sa belle robe verte, elle a passé du temps à regarder les bagues, les colliers, à choisir ce qui irait le mieux. Ah, oh, elle est restée là un bon moment. Et puis elle a pris une autre clé et elle a essayé une troisième porte. Quand elle a ouvert cette porte, elle était dans une immense bibliothèque. Des livres jusqu'au plafond. Une grande verrière Et elle a regardé, il y avait des livres d'astronomie, des livres d'histoire, des livres de toutes sortes de livres. Elle a passé des heures à regarder tous ces livres. Les jours suivants, elle a exploré les autres portes. Et quand elle a ouvert la porte d'après, elle a ouvert, elle s'est retrouvée dans les cuisines. Il y avait les cuisiniers qui préparaient des choses, mais des plats qu'elle n'avait jamais goûtés, avec des épices, avec... C'était vraiment... Elle n'a jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux. Et pendant toute une semaine comme ça, elle est passée d'une porte à l'autre, à changer de vêtements, à changer de bijoux, à goûter des plats, à lire des livres, à découvrir des histoires. Mais la petite clé, elle l'avait laissée de côté. Elle n'y avait pas touché. Une deuxième semaine est passée. Une troisième semaine. Et à la fin de la troisième semaine, Barbe Bleue n'était toujours pas revenue et il y avait cette petite clé là et cette porte au bout du couloir, mais petite porte en bois. La femme de Barbe Bleue s'est dit quand même. Quand même, je suis la maîtresse ici. Après tout, j'ai ouvert toutes les autres portes. Cela, c'est juste une porte de plus. Elle a pris la clé. Elle a tourné la clé dans la serrure. Et elle a poussé la petite porte. Elle a passé la porte. Elle a mis un peu de temps à s'habituer. La pièce était sombre. Devant elle, au milieu de la pièce, il y avait une grande table en bois. Et en plein milieu de la table, une hache plantée. Tout autour d'elle, sur les murs, des crochets en fer. Et à chaque crochet pendu le long du mur, une femme. Elle les a comptées, toutes, sur tous les murs. Il y en avait 3, 4, 5, 6 femmes. Et juste à côté de la porte, un crochet qui était vide. Elle a reculé, elle a lâché tout ce qu'elle avait dans les mains, elle est ressortie. Elle a voulu refermer la porte, la clé, elle était tombée où la clé? Elle a rouvert la porte, elle a vu la clé qui était tombée par terre, elle a ramassé la clé, elle est revenue dans sa chambre, elle a posé les clés sur la table, elle n'a plus voulu y toucher, elle n'a plus voulu ressortir de sa chambre de toute la journée. Le lendemain, elle a repris la petite clé pour la remettre sur le trousseau, elle a vu qu'il y avait une tache de sang. Vite, elle a pris de la cendre, elle a frotté, la tache de sang, plus elle la frottait, plus elle se mettait à briller, plus elle se mettait à grossir, alors elle frottait, et puis elle a appelé la servante. La servante qui l'a vue dans tous ses états, qui lui a demandé ce qui se passait, elle lui a montré la clé. Alors la servante a été chercher en cuisine des cendres, de quoi frotter, mais elles ont eu beau faire, la clé est restée tachée. Alors, la servante a dit, maîtresse, n'ayez crainte, je m'occupe de vous. Elle s'est mise à la fenêtre et elle a appelé un oiseau, un jai. Et quand le jai est arrivé près d'elle, elle lui a dit, va avertir les frères de ma maîtresse. Va leur dire de venir. Va leur dire que leur sœur est en danger. Et elle a envoyé le jai par la fenêtre et le jai est parti au-dessus de la forêt. Le lendemain, Barbe Bleue est rentrée. Il est entré directement dans la chambre de sa femme et lui a dit « Femme, je suis de retour, rends-moi mes clés. » Elle a rendu le trousseau de clés, elle lui a donné. Barbe Bleue est repartie. 5 minutes après, il est revenu. « Femme, il manque une clé. »« Ah oui, peut-être, oui, je vais la chercher, je la donnerai demain. » Je vais chercher dans mes affaires, je la donnerai demain. Barbe Bleue est repartie avec un petit sourire, sans rien dire. Et le lendemain, il est revenu. Femme, tu as trouvé la clé? Cette fois, elle pouvait rien faire. Elle lui a juste tendu la petite clé, tachée de sang. Barbe Bleue l'a même pas regardée. Il a pris la clé, il l'a ajoutée au trousseau. Tu as voulu aller voir derrière la petite porte. Eh bien, allons-y ensemble. Et il a attrapé sa femme et il l'a traînée dans le couloir et sa femme s'est débattue. Pitié, 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 j'ai vraiment... Je ne sais pas comment me faire pardonner. Non, 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 tu as voulu voir, après tout, c'est ta place. Non, 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 mais laissez-moi prier, laissez-moi un peu de temps pour prier, juste avant de mourir. Si tu veux prier, va prier. Je prépare. Va-t'en, Je te laisse un petit moment. » Et la femme, elle a descendu l'escalier, elle s'est retrouvée dans la cour, elle a appelé la servante. Et elle a dit, « Grimpe tout en haut de la tour, essaie de voir si mes frères arrivent, si mes frères sont de retour. » Et la femme de Barbe Bleue a attendu. Et elle entendait dans l'escalier de l'autre tour, « Tching, 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 tching. » Barbe Bleue qui aiguisait son couteau, « Tching, tching, tching. » Alors ma femme, tu es prête ? Non, non, un petit moment, un petit moment. Et elle s'est approchée, la femme de Barbe Bleue s'est approchée de la tour où était montée la bergère. Bergère, bergère, est-ce que tu vois mes frères ? Non, je ne vois rien, je ne vois rien, je ne vois que la forêt. Et elle a attendu la femme de Barbe Bleue tout en bas. Et elle entendait son mari qui arrivait. Tching, 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 tching. Dépêche-toi ma femme, dépêche-toi. Oui, oui, encore un petit peu. Elle est entrée dans la tour. Pendant ce temps, Barbe Bleue descendait et tching, tching. Dépêche-toi, ma femme, je commence à m'impatienter. Oui, 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 j'arrive, j'arrive bientôt. Et elle a monté le premier étage de la tour. Bergère, bergère, est-ce que tu vois mes frères ? Non, je ne vois rien, je ne vois rien, je ne vois que la forêt. Et elle a monté un deuxième étage. Et pendant ce temps, Barbe Bleue, lui, est arrivé dans la cour. Et il traversait tranquillement en aiguisant son couteau. Tching, 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 tching. Dépêche-toi, ma femme. Encore, encore un petit peu, un petit moment, encore un petit moment. Et elle a monté le deuxième étage. Bergère, bergère, est-ce que tu vois mes frères ? Oui, je vois quelque chose dans la forêt, je vois quelque chose qui s'approche. Mais je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre que ce soit vos frères. Oh, dépêche-toi, et elle a monté, la femme de Barbe Bleue, un troisième étage. Et Barbe Bleue est arrivée en bas de la tour. Dépêche-toi, ma femme, je commence à m'impatienter. Tching, tching, tching. Et la femme a monté un dernier étage. Et à ce moment, on a entendu frapper, toquer à la porte du château. Barbe Bleue a fait ouvrir, et les frères de sa femme sont entrés. Barbe Bleue a tiré son épée, il a jeté ses trois gros chiens sur les frères qui arrivaient. Ils se sont battus pendant une heure dans la cour. Mais au bout d'une heure, Barbe Bleue est tombée et ses trois chiens avec lui. La femme de Barbe Bleue et la bergère sont descendues dans la cour. Elles se sont jetées dans les bras des deux frères qui arrivaient. Ils sont tous repartis. Ils sont tous repartis dans la maison où vivait le père de la femme de Barbe Bleue, de ses deux frères. Il a été tellement content de revoir sa fille qu'il croyait morte, et tous les quatre sont revenus au château de Barbe Bleue. Ils ont pris toutes les richesses, tous les coffres, et ils sont repartis. Le château, lui, est resté vide pendant des années, et il a fini par tomber en ruine.
La barbe bleue, mon canard, qu'est-ce qu'il y a dans ton placard ? Ça sent bizarre. Dans mon placard, canard, est-ce que je sais ? Il y a des balais, il y a des seaux, des balayettes, des brosses et puis des nénettes, des plumeaux, des pots de chamois, est-ce que je sais moi ? Je peux voir, dis. Surtout pas, c'est interdit. La barbe bleue, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a dans ta penderie ? Ça sent le pourri. Chérie, y a des boules de naphtaline, des générations de bottines qui s'agglutinent. Mes costumes en prince de Galles et mes chemises en tergale. Je peux regarder, dis. Sûrement pas, c'est interdit. Barbe bleue, dis pour moi, qu'est-ce qu'il y a dans ton armoire ? Il y fait noir. mon armoire de mémoire, y a des mouchoirs de linon, des draps brodés à mon nom, des chemisettes, des tricots, des chaussettes, des sous-vêtements, des cravates, des demi-bas, des ceintures, des bretelles, des jabots, des plastrons et... Tu m'embêtes à la fin!
Alors, cette histoire de Barbe Bleue est issue des Contes populaires de la Gascogne, qui est un ouvrage qui est paru en 1886 et qui a été publié par Jean-François Bladet. Jean-François Bladet, c'est un folkloriste, c'est un des premiers collecteurs à avoir vraiment recherché tout ce qui est conte de tradition orale en Gascogne, c'est-à-dire ça va du Gers à la Gironde, par les Hautes-Pyrénées, les Landes, le Lot-et-Garonne, il a vraiment balayé de façon assez large le territoire. C'est un des premiers à avoir fait ce travail-là pour la Gascogne. Et à ce titre-là, son travail a été pas mal reconnu, même si dès la publication de ses contes, la rigueur avec laquelle il a recueilli les histoires a été un peu discutée, parce qu'il n'avait pas beaucoup de sources différentes. Beaucoup de gens qui lui ont fourni ces histoires étaient de sa famille. On pense qu'il a pu un peu réécrire certains fragments. Voilà, il n'avait pas une rigueur très très scientifique au sens où nous, on pourrait l'entendre et au sens où pas mal de gens l'entendaient aussi à l'époque. Mais en tout cas, ça a été un des premiers à faire ce travail-là. Et il est encore reconnu à ce titre-là pour la Gascogne. Et sa collecte a été aussi pas mal appréciée en Allemagne, puisqu'il y avait le travail des frères Grimm qui avait été fait au début du 19e siècle. Et ses travaux ont vraiment été beaucoup repris, traduits, commentés, même s'il y a une patte, une écriture, un style qui est propre à Bladet. Ça, vraiment, ce travail a été a servi de base, quoi. Ça reste encore une référence. Donc Bladet, c'est un des principaux. En gros, pour les contes gascons, il y a trois principaux collecteurs. Donc il y a Bladet qui a balayé un peu tout le territoire. Il y a Félix Arnaudin qui, lui, s'est vraiment concentré sur les Landes. Et Antonin Pergbosc qui était plutôt du côté Tarn-et-Garonne, Ariège. Donc on va commencer par Félix Arnaudin. Lui est beaucoup plus dans une démarche rigoureuse de collecte, au sens où on pourrait le qualifier de scientifique, parce que il a beaucoup protesté contre la loi de l'assainissement et de mise en culture des Landes de 1857, qui a donc complètement changé le paysage landais. Au départ, il y avait beaucoup de... une agriculture très, très variée, de l'élevage, et on est passé à l'implantation de pins. Donc les grandes forêts de pins, ça date de cette époque-là. Et lui, il était vraiment contre ce changement, cette disparition du paysage, de la culture locale. Donc il a vraiment fait un travail de collecte pour préserver ce patrimoine-là qui était en train de disparaître. Parallèlement à ce travail de collecte, il a fait un gros travail de photo. D'ailleurs, ça se retrouve aussi l'envie de garder une trace photographique, un truc très précis qui ne déforme pas la source, qui ne se permet pas forcément de réécrire comme Bladet a pu le faire des histoires. Il est vraiment dans une volonté de préserver la source en tant que telle, qui a sa valeur propre en tant que source. Donc il a connecté des contes, des chants en gascon, il a fait des photos des paysages, des paysans aussi, des costumes de paysans hollandais. Et donc sa maison natale, c'est devenu la maison de la photographie des Landes, où pas mal de ses photos sont encore exposées. De l'autre côté, plutôt côté Pyrénées orientales, on a Antonin Perbosque. Alors lui, il arrive un peu plus tard. Au départ, il est instituteur, puis il est bibliothécaire, et lui s'intéresse vraiment au folklore du Tarn-et-Garonne, de l'Ariège. Alors, lui au départ, donc c'est un instituteur, c'est un militant de l'éducation populaire, et pour collecter les histoires, lui s'est appuyé sur ses élèves. Il a demandé à ses élèves de raconter les contes qu'ils entendaient chez eux, et il leur a demandé d'écrire vraiment telles quelles les histoires qu'ils entendaient, et même de demander aux grands qui savaient écrire de recopier ce que leur confiaient les petits. Donc on a pas mal de... Et aussi, il insistait sur le fait que ce soit aussi dans la langue du coin. Alors qu'on était quand même à une époque où le français était beaucoup mis en avant, où on punissait les enfants parce qu'ils parlaient une langue locale. Donc lui, il était vraiment dans cette idée de conserver le patrimoine local, y compris au niveau linguistique. Et il y a un gros travail de collecte. Donc il y a eu 51 élèves entre 1900 et 1908 qui ont fait ce gros travail de collecte. Et il a commencé un peu avant aussi. Et donc ce travail que Perbosque et ses élèves ont fait, donc ça a été pas mal remarqué parce qu'en septembre 1900, il y a eu un congrès des traditions populaires à Paris. Et le travail de Perbosque et de ses écoliers a été présenté à ce moment-là. Et ils auraient pu se croiser avec Bladé, sauf que Bladé, qui était organisateur de ce congrès des traditions populaires, lui est mort quelques mois avant le fameux congrès. Donc ils n'ont pas pu se croiser. Ce qui aurait peut-être été intéressant, parce qu'il y a une petite anecdote par rapport au folklore et aux contes qu'ils ont pu trouver. Bladé a toujours dit qu'il n'avait pas trouvé de contes licencieux, de contes graveleux, ce genre de choses. Ça n'existait pas dans le répertoire gascon. Alors que Perbosque, si, il y a plein de contes licencieux, de contes... voilà, il a trouvé pas mal de choses. Et d'ailleurs, il a fait plusieurs recueils de ces histoires-là qui n'ont pas été publiées, qui sont restées à l'état de manuscrit. Mais en tout cas, voilà, si on veut trouver des contes licencieux gascons, il faut plutôt les chercher chez Perbosque que chez Bladé. On n'aura pas la même chose. Donc voilà, déjà, ces trois collecteurs-là, je trouve intéressant de les mettre en parallèle parce que c'est les principaux, on va dire, ceux qu'on trouve le plus. Mais ils se revendiquent tous d'une démarche scientifique de collecte et de préservation du patrimoine. Mais on voit quand même qu'il y a des petites variantes locales. Autant il y en a un qui reste assez général, quitte à trafiquer un peu certaines sources. Alors que Arnaudin, lui, est beaucoup plus dans une démarche d'ethnologue, puisqu'il était aussi ethnologue. Et Perbosque dans une démarche d'éducation populaire, où il va mettre à contribution ses sources. Et c'est les sources elles-mêmes qui retranscrivent les choses qu'elles racontent, quoi. Donc ça, c'est les trois principaux. Alors, il y en a quatre autres. Il y a Léopold Dardy. Alors lui, Léopold Dardy, c'est vraiment le contemporain de Bladé. Ils sont nés la même année quasiment et morts la même année. Alors lui, il a beaucoup recueilli de prières et de chants religieux, puisque lui était prêtre. Donc lui, il s'est vraiment limité à les devinettes qui ne bravaient pas l'honnêteté. Bon, après, c'était son... En tant que prêtre, il ne pouvait pas tellement se permettre d'autres choses, mais en tout cas, il a vraiment contribué aussi à collecter des choses sur le territoire gascon. Ensuite, on a Sénac Monco. Alors lui, c'était le maire d'une petite commune du Gers. Il a fait beaucoup de romans méridionaux, historiques, sur l'Aquitaine. Alors lui, il est vraiment sur le territoire du Gers. Voilà, c'est vraiment, il est ciblé sur ce territoire-là. De la même façon que de Pierre Bédard de Montlore, lui aussi, il est vraiment sur le Gers. Il y a vraiment des collecteurs qui se sont concentrés sur une seule région. Et le plus jeune, celui qui est mort le plus récemment, en tout cas, qui est mort en 96, c'était Adelin Moulis. Et lui, il a vraiment travaillé sur le répertoire d'Ariège. Donc voilà, on a un peu... plusieurs collecteurs, essentiellement au XIXe siècle, puisque c'était aussi une époque où le paysage changeait, où il y avait un gros exode rural. Donc beaucoup de gens se sont dit que c'était intéressant de conserver ces traditions-là qui étaient en train de disparaître parce que l'habitat traditionnel disparaissait, alors que des gens qui avaient collecté et rapporté des comptes, comme Perrault, comme des collecteurs beaucoup plus anciens, n'avaient pas ce souci de conserver une vie paysanne, puisque la vie paysanne, elle était encore là. Il n'y avait pas du tout de changement dans la société qui pouvait justifier. Voilà en quelques mots pour présenter les différents collecteurs. Donc cette version de Barbe Bleue, c'est une version de Bladé, mais on la retrouve dans pas mal de traditions aussi régionales et du monde.
Mm-hmm.